Les 5 heures sur RCF. Dialogue présenté par Sarah Brunel.
J'irai donc ce soir méditer sur ma terrasse. Une feuille qui tombe dans la nuit, est-ce un souvenir qui veut l'oubli ? Une petite souffrance qu'on détache comme une fleur fanée, est-ce vraiment la preuve que le cœur s'apaise ? Au niveau du tilleul qui caresse la terrasse, près du murmure des branches, j'oublie ma trace humaine et les soucis au jour. La nuit protège de sa solitude les buissons et les arbres. Une unité, un équilibre se pose sur la vie endormie. La lumière douce et la nuit mêlée, réconciliée, veille sur le jardin qui rêve. Ce sont les mots du philosophe Gaston Bachelard dans son livre « Le droit de rêver ». Il est essentiel de redonner aujourd'hui toute sa place à la rêverie, de nous accorder à tous un droit de rêver. La rêverie peut-elle nourrir et stimuler la créativité ? Peut-elle nous ancrer dans le monde sensible ? En quel sens peut-elle éveiller notre intelligence, notre créativité, nous invitant à agir et à habiter le monde de manière renouvelée ? Pour découvrir l'univers philosophique de Gaston Bachelard, j'accueille aujourd'hui avec un immense bonheur Jean-Philippe Pierron. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Sarah Brunel.
Alors vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université de Bourgogne, vous êtes aussi un spécialiste de l'œuvre de Gaston Bachelard. Mais surtout vous nous invitez aujourd'hui à penser dans le sillage de Bachelard, à ouvrir les yeux sur le monde, à déployer notre intelligence du réel en puisant à la source bachelardienne. Vous avez publié plusieurs ouvrages très personnels, tout récemment « Je est un nous », enquête sur nos interdépendances avec le vivant. Alors je vous invite aujourd'hui à découvrir « Le droit de rêver », le titre d'un livre posthume de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard qui est né à Bar-sur-Aube en 1884, qui a eu un parcours assez atypique, qui fut professeur de chimie et de physique, qui ensuite enseigna la philosophie comme vous, je crois, à l'université de Dijon, et qui occupa la chaire ensuite d'histoire et de philosophie des sciences à la Sorbonne. Et il meurt à Paris le 16 octobre 1962. Alors, en quelques mots, Jean-Philippe Pierron, qui est Bachelard pour vous, personnellement ?
C'est le penseur qui ne néglige ni la rigueur du concept, ni l'exactitude du concept, ni la rectitude de l'image. Hein, on dit, il y a eu un petit recueil qui est intitulé Bachelard, l'homme du poème et du théorème. Il pense, Bachelard, qu'il peut y avoir une vérité scientifique, bien évidemment, c'est comme ça qu'on a connu ses travaux. Et en même temps, il pense qu'il y a une vérité de l'image, avec tout cet abîme, hein, qui est que, alors, en quel sens une image poétique peut-elle être vraie, hein. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que ce penseur donc, articule imaginaire et rationalité. Il les articule plus qu'il ne les oppose, même si, effectivement, les deux versants de son œuvre donnent parfois l'impression d'une dichotomie.
Ce que vous désignez comme l'homme du poème et l'homme du théorème, voilà. Hein, celui du rationalisme appliqué et celui de la poésie, des éléments, de la rêverie.
C'est ça. Alors qu'en fait, ce qui m'intéresse vraiment chez ce penseur, c'est sa très grande à la fois attention et curiosité autour de ce qu'on pourrait appeler la créativité psychique. Laquelle créativité psychique alors se déploie depuis les dessins d'enfants, disant d'ailleurs et invitant les philosophes à revenir à leurs dessins d'enfants, c'est-à-dire en fait et ces formes d'expression première non contrôlées, non corsetées en fait par les formes socialement valorisées de ce qui serait acceptable ou pas, et donc cette créativité psychique, il en voit des sommets dans bien sûr l'activité scientifique, qui est un lieu où la créativité humaine se déploie, se stylise, y invente des formes de questionnement et de conceptualisation incroyables. Il la voit dans le poétique, au sens du poème, hein, mais il le voit aussi dans les expressions plastiques des artistes de son temps.
Alors, il existe pour Bachelard un espace onirique. Hein, c'est le titre d'un chapitre du droit de rêver, enfin d'une partie. Mmh. Alors, dans quel espace vivent nos rêves ? Quel est le dynamisme de la vie nocturne ? Ce sont les questions que Bachelard lui-même pose. Comment faire droit aux rêves ? Quelle place lui accorder dans nos vies ?
Alors là, on touche le cœur hein, de sa philosophie et le parcours qu'il va faire pour essayer de rendre compte effectivement de ce qui se joue autour de la question en fait du rêve. Bachelard prend au sérieux le rêve. Hein. Alors, comme beaucoup de ses contemporains, il le fait en étant attentif à ce que la psychanalyse va apprendre. Mais la question, c'est quelle psychanalyse ? Et donc, il va commencer par Freud. Et en même temps, effectivement, montre comment le rêve est une puissance d'identification et engageant et mobilisant notre subjectivité dans sa dimension pulsionnelle. Mais en même temps, au risque parfois de réduire le rêve à du symptomatique, hein, et donc de rattacher la puissance d'image du rêve essentiellement à la biographie pathologique en fait du sujet. On peut pas oublier que la psychanalyse c'est aussi une forme de réflexion sur la pathologie. Hein. Et donc quand on dit il quittera vite, enfin finalement Freud pour Jung, en cherchant là aussi les liens profonds entre l'image, la matérialité de l'image, parce que ces images elles ont une consistante, et la culture, pour aller progressivement sur ce qu'il appellera une poétique de la rêverie. Et donc le rêve, il est, je pense qu'il est, il s'agit ni de le, c'est pas un déni du réel. Hein. Ce qui est assez étonnant, c'est quand Bachelard pense le rêve, alors à l'exception du texte que vous venez de choisir, hein, qui est un texte qui porte effectivement sur la question de la spatialité du rêve nocturne, dont il montre qu'il y a une espèce de tension, hein, entre la première partie de la nuit et la seconde partie, autrement dit, à la fois des sortes de quelque chose d'expérience abyssale, d'un sujet qui s'y perd, et de l'autre côté, des puissances de verticalisation au moment du réveil. Enfin, donc, il a une lecture un peu dynamique de ce que c'est que l'expérience du rêve, mais la plupart du temps, quand Bachelard pense le rêve, il pense le rêve éveillé. Ce qui peut être assez surprenant, alors c'est certes les techniques du rêve éveillé de certains de ses contemporains, là aussi des psychiatres, parce qu'il a beaucoup travaillé finalement, c'est un aspect de son œuvre qu'on connaît moins, mais avec les psychiatres de son temps, donc dans une perspective de psychiatrie phénoménologique, finalement il est un peu marginal, mais il y a une vraie consistance en fait de cet aspect. Mais donc le rêve qui l'intéresse, c'est le rêve éveillé. Et donc le rêve, c'est pas la rêvasserie, donc qu'on dénigre comme étant une fuite du réel. Hein.
Oui, il y a cette distinction entre le rêve et la rêverie aussi.
C'est ça.
Qu'est-ce qui se joue dans cette distinction ?
Alors, ce qui se joue, c'est cette idée que on peut cultiver cette forme particulière, comme l'a fait le surréalisme pour une part. En tout cas, c'est pourquoi le surréalisme, à un moment donné, a trouvé chez Bachelard peut-être son théoricien, en tout cas a cherché à le trouver. En fait, on peut trouver donc là où le rêve peut être décrit comme une sorte de production du psychisme nocturne échappant au contrôle relatif en tous les cas de la vie psychique consciente, ce qui intéresse Bachelard dans la rêverie, c'est cette forme d'attention flottante en fait qui est donnée dans la rêverie, que permet la poésie notamment, hein, parce que vivre une image poétique, c'est précisément mettre un tout petit peu en suspens, dirait-on à la manière un peu de la phénoménologie, mettre un peu en suspens la question en fait du monde et son souci utilitaire, pour se concentrer sur ce qui se donne dans la fulgurance de l'image. Et donc la rêverie, enfin cultiver la rêverie, c'est cultiver cette forme de présence intensifiante de l'image que donne un poème, mais que pourra aussi donner une œuvre plastique, que ce soit une gravure, une peinture ou une sculpture.
Alors ça, c'est la puissance créatrice potentielle de cette figure du rêveur éveillé. L'artiste est-il à sa manière un rêveur éveillé ?
Oui.
Puisse-t-il dans cette expérience-là ?
Oui. Alors c'est sûr que pour pouvoir dire ça, Bon, d'abord, c'est intéressant que vous disiez l'artiste, là aussi, parce que ça force à, si je puis dire, à enlever sur Bachelard les images qu'on a, comment dire, plaquées, hein, effectivement, en fait, une espèce de figure un peu image d'Épinal, d'homme solitaire et essentiellement consacré soit à la Cité des Sciences, soit au monde des poètes, parce qu'effectivement, il fréquente aussi le monde des artistes. Et donc, ça questionne qu'est-ce qui se passe quand nous nous regardons devant une image esthétique. Et donc les arts plastiques, comme les poèmes, effectivement, sont des suscitations dans l'instant de notre capacité de mise en présence à ce qui peut se donner.
Prenons le temps de la rêverie grâce à une pause musicale, Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, interprété au piano par Claudio Arao.
Thank you.
RCF, Sarah Brunel.
Rêver, n'est-ce pas laisser advenir une autre expérience du temps ? Une autre expérience du temps, tout d'abord le temps du philosophe. Est-ce la joie de méditer, comme l'écrivait Bachelard, pour bien prendre conscience que la méditation est un acte, l'acte philosophique ? Comment un philosophe peut-il dire quelque chose sur cette temporalité à partir du rêve ? N'est-ce pas à rebours de l'exercice de la rationalité lucide, maître d'elle-même, qui contrôle
oui.
le flux de ses pensées.
Oui, alors, dans le livre, en fait, donc ce recueil d'articles s'appelle le droit de rêver. La troisième partie dont est extraite finalement cette formule, elle est consacrée à mettre en valeur la dimension en fait métaphysique du temps. Que porte la philosophie de Bachelard, et cette métaphysique du temps, c'est une métaphysique de ce point de vue-là en critique ou en regard critique à l'égard de celle de Bergson, et qui met l'accent effectivement sur la dimension en fait de l'instant. Et donc pour pouvoir faire ça, effectivement, ça suppose il y aurait tout un travail, je ne veux pas déployer tout ça, mais il y a une partie du travail que fait Bachelard qui est de se demander comment nous restituer via des exercices, d'une certaine façon. Il y a un côté un peu stoïcien, et d'ailleurs il les cite, les stoïciens, il y a des formes d'exercices de soi.
Ou exercices spirituels ?
Presque, mais je crois que c'est pas complètement faux. Enfin, en tout cas, il va pas jusqu'à mot spirituel, mais en tout cas, il y a des exercices au sens où, effectivement, l'exercice spirituel au sens d'un pierrado, mais qui est, finalement, on s'entraîne, quoi. On peut s'entraîner à rêver, à bien rêver. Et pour ça, il y a un travail il s'agit de s'émonder à l'égard de tout ce qui, de cette façon, contrôle la rêverie, ce qu'il appelle les cadres sociaux de la durée, le contexte social, en fait, qui installe nos rêveries dans une temporalité. Bref, il y a un travail d'exercice de soi. Et ces exercices de soi, ils supposent effectivement la valorisation de la méditation. Et dans un de ses textes, Bachelard se situe de ce point de vue-là à rebours de cette rationalité lumineuse. On vient d'entendre une musique qui met l'accent sur l'importance en fait de la nuit. Il y a des philosophes du jour et il y a des philosophies de la nuit. Et de certaine façon, il y a chez Bachelard une dimension la dimension de la lucidité, donc de mettre en lumière que fait la rationalité scientifique. Mais il y a une méditation, contemplation de l'expérience de la nuit. Et les deux textes qu'on a lus en fait disent ça d'une certaine façon. Et donc pour faire ça, effectivement, Bachelard met en valeur la dimension de la méditation en disant ma philosophie, c'est une philosophie effectivement de l'attention à ce qui se donne dans l'instant de ce que je médite, plutôt qu'une philosophie qui, à distance, doute. Et donc il se situe de ce point de vue-là à l'égard effectivement de la pensée de Descartes, et donc d'un sujet qui arbitre à partir de son propre geste initial, fondateur d'une manière à la fois de penser et d'être au monde. Donc effectivement, il y a une prise de distance à l'égard de ce sujet cartésien pour...
c'est le monde retrouvé aussi.
Oui.
Et cela nous ouvre à la profondeur du monde, à ce qui nous dynamise, et c'est aussi une autre manière de vivre un nouveau temps, ce qu'il nomme le temps vertical, ouvrir son propre temps, s'habituer, dit-il, à ne pas référer son temps propre au temps des autres, au temps des choses. N'est-ce pas, effectivement, comme vous le dites, une leçon de sagesse ou quelque chose comme un sentiment d'éternité aussi, qui nous invite à penser et à vivre aussi,
Gaston Bachelard. Oui, en tout cas, sans doute un sentiment de l'urgence de l'instant, tanné. Sur la question de l'éternité, il est sans doute il serait sans doute plus prudent. Il y a un matérialisme bachelardien de ce point de vue. Mais oui, de fait, effectivement, l'instant nous verticalise. Et donc, cette question de la verticalité est là, parce qu'il y a
verticalité, c'est-à-dire on s'ancre par rapport à l'horizontale qui est la fuite du temps, en fait.
Voilà,
c'est ça.
Ben, c'est exactement. C'est ce qu'il va retrouver notamment dans les gravures de Flocon, et notamment aussi dans ses lectures de Balzac. Cette idée que la verticalité, c'est effectivement nous réinstaller dans notre assise, si je puis dire, de sujet, qui effectivement à la fois a la conscience de son là, de son sol et en même temps de ce qu'il élève. Hein. Donc la question du schème de la verticalité, c'est la question de l'homme debout, hein, mais de l'homme debout reconnu dans sa puissance, effectivement, de sujet capable. Hein. Alors, il ne dit pas capable, c'est déjà trop pour lui, ce n'est pas un moraliste. Hein, mais effectivement, les images verticalisantes, elles sont très, très nombreuses chez Bachelard, elles ont une signification posturale, hein, parce qu'effectivement, qu'est-ce que signifie pour nous être debout? Mais ensuite, il les traque, ces images verticales, eh bien, chez les poètes, parce que finalement, pourquoi lit-on de la poésie? Pourquoi fréquente-t-on les artistes si c'est pas simplement pour des opérations mondaines? Si on se laisse traverser par les images des poètes ou par celles que nous offrent les plasticiens, c'est pour être restauré dans notre verticalité de sujet se dit bah, je suis de là, prêt à aller là-bas. Hein. Et cette question nos projets sont toujours des là-bas, il les questionne, parce que finalement, je pense qu'il y a une philosophie de la liberté qui ne se dit pas comme ça, il est beaucoup plus prudent à l'égard de ses concepts, c'est pas un philosophe de la morale, ni un philosophe politique, mais c'est malgré tout un moraliste au sens du 17e, de ce point de vue.
C'est l'homme dans son entièreté intégrale qu'il nous invite à repenser, l'homme des 24 heures, hein, l'homme du jour, mais aussi l'homme de la nuit, hein, comme le disait Bachelard lui-même. Donc, il écrit, la nuit, on n'est pas rationaliste, on ne dort pas avec des équations dans la tête, effectivement. Donc, il y a cette opposition radicale qui pourrait être clivante, mais en fait, chez Bachelard, c'est tout un rythme aussi. C'est la question du rythme, ce qui ne conduit pas à une fuite du monde, mais au contraire à être bien là, à être bien présent.
Ouais. Oui, tout à fait. Alors, il y a un concept très important chez Bachelard, en fait, qui est le concept de rythme-analyse, qui est un concept qui est intéressant pour, effectivement, réinterroger comment nous vivons notre rapport au temps. Et une façon d'en rendre compte, c'est peut-être d'abord d'opposer la cadence et le rythme. Hein, là où on peut définir une approche métronomique du temps à la manière d'une description mécanique, hein, et presque mathématique, enfin la cadence, hein, qui peut être définie a priori, hein, le rythme, lui, n'est qu'à être vécu. Et donc, ce qu'il appelle rythme-analyse, c'est l'attention qu'il va porter sur comment, lorsque nous vivons le temps, eh bien, de cette façon, nous pouvons être les acteurs de l'intensité de ce que nous y vivons par la pluralité des rythmes que nous y déployons. Et donc, dans ces temps comme les nôtres, où nous sommes parfois épuisés par ce que le sociologue Hartmut Rosa appellerait la société de l'accélération, bref, une espèce de temporalité sociale qui nous malmène parce que précisément elle nous emporte dans une cadence infernale, eh bien la réponse bachelardienne, en ce sens-là une sagesse, effectivement, c'est de nous dire, prête attention à la question de la pluralité des rythmes qui font ta vie, pour effectivement être restauré dans ta puissance de sujet par la rêverie que permettra cette rythmique. Donc ça veut dire comment nous organisons notre temps de journée, notre temps de semaine. Hein, ça peut être une décision poétique aux effets éthiques. Hein. Autrement dit, il y a de l'éthique indirecte de ce point de vue.
Oui, ce que la lecture des poètes, l'expérience aussi de la peinture, hein, qui consiste à explorer, saisir aussi un ensemble d'images par lequel l'imagination de l'artiste fait naître aussi en nous cette perception-là. C'est identifier aussi pour Bachelard l'impulsion créatrice d'un artiste. Je pense à Claude Monet, à Chagall dans Le Droit de rêver, mais aussi à des poètes comme Rimbaud ou Éluard. Quelle est l'originalité de sa lecture, de son rapport, on pourrait dire, ici à l'art?
Bachelard, en fait, c'est intéressant cette formule. Quel est son rapport à l'art? Donc, je pense que c'est une relation plus qu'un rapport. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est ni dans la distance objective et extérieure qui voudrait expliquer le geste de l'artiste par son contexte, comme pourrait le faire l'historien de l'art, ou bien l'explication de l'œuvre par sa biographie, comme pourrait le faire une psychanalyse, en fait, de la genèse de l'œuvre d'art. Je pense à son texte sur Rimbaud. Hein. On peut expliquer la poésie de Rimbaud par les relations difficiles avec son entourage familial et sa mère, mais au-delà de ça, pour Bachelard, il s'agit de vivre l'intensité de l'image avec celui qui la propose. Et donc, pour cela, il s'agit moins de faire un commentaire que, finalement, de se laisser investir par les matières qu'ont travaillées les artistes avec lesquels on va se laisser toucher. Autrement dit, se lire de et avec l'œuvre qu'on va travailler. Donc, ni dans la nostalgie, ni dans ce qui va arriver tout à l'heure, mais dans l'instant de la contemplation.
En ces temps dominés par la rationalité instrumentale, par le contrôle, l'évaluation tout azimut du vécu, reconnaître la place des puissances de l'imagination est devenue tâche urgente pour habiter autrement notre monde. Jean-Philippe Hiéron, c'est un constat que vous proposez dans votre dernier livre, « Jeu est un nous », enquête sur nos interdépendances avec le vivant. Le titre d'une de vos méditations est « Bachelard et le Valage, une éco-poétique ». Et vous analysez ces dissonances qui sont les nôtres aujourd'hui avec la nature, cet aveuglement ou cette oblitération, finalement, paradoxalement, de la matière, du monde sensible. Pourriez-vous revenir avec nous sur ce prolongement, pourrait-on dire, contemporain de l'analyse de Bachelard ?
Oui, on a évoqué tout à l'heure la question du matérialisme de Bachelard, hein, et donc c'est compliqué cette histoire, parce qu'en fait il construit un matérialisme à la fois rationnel lorsqu'il fait sa philosophie des sciences, et il construit de l'autre côté ce qu'il appelle une imagination matérielle lorsqu'il fait une poétique. Et donc ce matérialisme, c'est pas tout à fait le matérialisme marxiste, mais c'est effectivement la tension à la puissance évocatrice en fait des matières. Alors, on pourrait dire, enfin, il y a d'ailleurs des textes de Bachelard, je crois que c'est dans La Terre et les rêveries de la volonté, il dit ce qui caractérise notre temps, alors il écrit ça avant les années 60, hein, du millénaire précédent, il dit nous sommes à l'époque de ce qu'il appelle les matières administrées. Parce que, effectivement, pour nous, les matières sont devenues des flux à gérer. L'eau se gère en mètres cubes, les terres rares, on cherche à se demander où est-ce qu'elles sont encore accessibles, etc., etc. Les champs se racontent en mètres carrés ou en hectares. Et donc, on oublie, finalement, là, je dis parfois à propos de l'eau, la source ou la ressource, mais d'une certaine façon, on oublie le caractère originaire de notre rapport à la matière sous l'administration extractiviste qui veut contrôler ces dernières. Et donc, lorsque Bachelard construit ce qu'on peut appeler une éco-poétique, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, pour nous, les matières ne sont pas simplement que des matériaux à exploiter ou à extraire, mais il y a des connivences extrêmement intimes que nous pouvons vivre avec elles qui nous intensifient. Ça peut paraître très compliqué, mais en fait les choses sont très très simples. Lorsque je me promène sur un bord de chemin et que la texture de celui-ci sous mon pas fait qu'effectivement, je vais dire, c'est un chemin qui est agréable à marcher, hein. Lorsque je vais être attentif à un caillou, à un brin d'herbe, soudain le milieu n'est plus un espace géométrique que je pourrais traverser de l'extérieur guidé par un GPS, hein, mais effectivement il est retrouvé dans ses partialités, des partialités qui sont vécues et investies. Et donc l'éco-poétique, elle nous dit ça. Elle nous dit que pour moi, être là, être de là, c'est pas forcément faire l'exaltation du terroir, hein, mais c'est effectivement être attentif à ces partialités qui m'ont aidé à me préciser comme sujet et sans lesquelles je ne saurais être celui que je suis. Quel que soit d'ailleurs l'endroit que ça concerne, hein.
Ce que vous dites nous conduit également à réfléchir sur la question du langage. La langue de Bachelard est une langue très riche, très très fluide, très incarnée, hein, qui nous ouvre à des perceptions véritablement. Or, notre langage aujourd'hui est rattrapé par une pensée utilitaire, abstraite, peut-être de plus en plus abstraite, avec de nombreuses, une certaine mathématisation, évaluation, statistique, etc. Et c'est donc par le langage aussi la question de l'humanité finalement qui se joue. quelle place accorder au langage chez Bachelard? Quel est son langage et en quel sens il enrichit notre rapport au langage, enfin notre
C'est une question qui est immense parce qu'elle traverse diversement, mais elle traverse toute son œuvre. La première méditation qu'il fait sur le langage, c'est sur la nature du langage scientifique, où il montre, d'une certaine façon, il y a un texte, je crois que c'est dans le matérialisme rationnel qui dit ça, je crois, hein, il dit, en science, il parle des catégories de la chimie, le langage est en état de révolution permanente, c'est-à-dire qu'en fait, comment inventer des catégories qui soient à la hauteur de la réalité qu'on décrit lorsqu'on est un physicien ou un chimiste. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas être prisonnier des stéréotypes qui habitent nos langues. Et cette question-là, il la retrouve lorsqu'il travaille en fait sur la poésie, en disant qu'est-ce que fait le poète ? Eh bien, il y a aussi une dimension en fait d'insurrection, de puissance, de surrection que le poète active dans le langage en retrouvant dans le langage la capacité de faire sonner des images qui jusque-là, enfin qui sans lui de cette façon seraient mortes. C'est pour ça qu'il parle pas tellement de métaphores, Bachelard. Hein, c'est des figures trop déjà engoncé dans de la rhétorique.
Trop artificielle, peut-être. J'ai une phrase en mémoire du droit de rêver où il dit à propos de Rilke que le langage nous révèle à nous-mêmes.
C'est ça. Et donc, il s'agit en fait pour Bachelard de retrouver ce point d'émergence à partir duquel nous disons au monde à partir des mots qui sont eux-mêmes en émergence. Et donc le travail du poétique, c'est de retrouver le nom propre sous le nom commun, si on pourrait, pour le dire comme ça, dans une formule un peu abrégée. Donc sur la dimension natale, en fait, du langage.
Juste pour terminer, je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit également un petit ouvrage, Les rêveries de Gaston Bachelard, dans la collection Les petits Platons pour les enfants. Juste en deux mots, pourquoi faire découvrir Bachelard aux enfants? Qu'est-ce qu'il peut leur apporter?
Eh bien, justement, cette curiosité, le caractère atypique de sa vie, et en même temps cette idée qu'il y a de la joie à penser, que penser est une fête, qu'on soit scientifique ou qu'on soit poète.
Merci infiniment Jean-Philippe Pierron. Prenons tous ensemble le temps de rêver, de prendre notre temps, de discerner les moments essentiels à notre propre rythme de vie. Le droit de rêver et le bonheur de lire Bachelard. Un grand merci également à Alexia Stelé, aujourd'hui à la réalisation technique.
Merci.
Le chapelet de Lourdes, c'est votre rendez-vous quotidien avec la prière. Depuis la grotte de Massabielle, suivez les méditations des mystères du rosaire en communion de prière avec les pèlerins et tous les auditeurs. Le chapelet de Lourdes, c'est tous les jours à 15h30 sur RCF et à la demande sur l'application RCF.
Vous écoutez RCF au Mans sur le 101.2.
De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte, en écho à l'actualité, toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Où va la vie, en partenariat avec les facultés Loyola Paris, présenté par Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve, c'est ce dimanche à 18h.
Mille questions à la fois. En collaboration avec le site croirelacroix.com. Florence Châtel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la fois, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. Croire en la résurrection a une action performative, agissante dans nos vies, selon le philosophe chrétien Denis Moreau. Pourtant, nous avons parfois du mal à percevoir la résurrection à l'œuvre dans notre histoire et dans le monde. Que nous dit la foi au Christ ressuscité des changements possibles dans nos vies? C'est la question que je pose à mon invitée du jour, Catherine Labbé, oblate bénédictine, mariée et mère de famille, mais aussi consultante pour des groupes internationaux et coach. Bonjour Catherine.
Bonjour Florence.
Alors pour commencer, qu'est-ce que la résurrection pour vous?
Alors moi je suis toujours frappée de voir que beaucoup de nos contemporains en fait ont du mal à appréhender aujourd'hui la résurrection qui est quand même un des fondamentaux de notre foi chrétienne. Si on pense la résurrection comme une espèce de réanimation en fait post-mortem, hein, comme si on était réanimé après un arrêt cardiaque par exemple, on bute inévitablement sur des considérations du type « comment ça se passe réellement »« peut-on vraiment démontrer la résurrection ?» sous quelle forme Jésus est-il vraiment ressuscité? Pourquoi Marie-Madeleine ne l'a-t-elle pas reconnu quand il a été ressuscité? Et en fait, force est de constater qu'on tourne en rond, en fait, sans arriver à percer ce mystère de la résurrection. Moi, il y a une définition que j'aime bien, qui est celle que le Père Longeat a reprise dans un de ses livres, qui s'appelle « Sur les traces de l'au-delà », qui dit « La résurrection est un au-delà, au-delà des apparences passagères, une vie en plénitude qui franchit l'obstacle de la mort et se poursuit d'une manière accomplie en Dieu. » Et là, je trouve qu'on rentre vraiment dans une perspective nouvelle. Voilà.
Mais alors, cette définition de la résurrection, on la comprend très facilement, on la comprend en tout cas par rapport à des personnes qui seraient décédées, de nos proches. Oui. Comment on fait le lien avec nos vies aujourd'hui?
Eh bien, je crois qu'un petit peu comme Paul, en fait, sur le chemin de Damas, en fait, chacun de nous peut faire des expériences spirituelles qui bouleversent totalement leur vie. Cette expérience qui est une forme de mort à nous-mêmes, en fait, que celui qui la vit ne la comprend pas véritablement, ça le dépasse totalement. Certains parlent de renouvellement intérieur, de réveil, d'unification intérieure, de faire l'expérience en fait d'une forme de puissance de l'amour inconditionnel de Dieu ou de proximité de Dieu dans les moments où ça va vraiment mal. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a entendu aussi lors de l'évangile de l'aveugle-né. Donc c'est toujours un moment de bascule imprévisible que finalement chacun peut connaître, qui fait que sa vie prend un tournant totalement différent, où on va vers un au-delà qu'on ne connaît pas, mais qui paradoxalement devient une certitude, qui ouvre des horizons nouveaux et où on avance finalement un chemin vers lequel on avance en confiance en fait. Voilà, une expérience de la résurrection en fait humaine. Alors ça ne va pas sans combat, hein, bien sûr, parce qu'on abandonne aussi un certain nombre de sécurités. Il y a un changement de vie, donc ça nécessite aussi une forme d'accompagnement. Ça peut être assez anxiogène en fait, parce qu'on comprend, celui qui vit cette expérience ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais c'est en tout cas, c'est le fait de se départir de ses propres constructions pour finalement s'en remettre à plus grand que soi.
Alors, vous accompagnez dans votre vie professionnelle des conduites, ouais, du changement en entreprise, mais aussi des personnes individuelles dans des reconversions. Êtes-vous témoin à ce titre de résurrection, un peu comme vous les décriviez ici? Est-ce que vous auriez une histoire concrète à nous raconter ou un exemple tiré de votre vie, en fait?
Alors, Bah oui, il y a, enfin, je pense encore une fois, hein, beaucoup de gens font des expériences spirituelles hein, dont ils pourraient parler. Moi, je peux juste témoigner du fait que j'ai grandi en fait dans une famille qui n'était pas pratiquante du tout, et que j'ai entendu lors d'une homélie dans une abbaye bénédictine que un autre monde était possible, un monde plus juste, plus fraternel, et que cette parole a résonné si fortement en moi, à ce moment-là, que j'ai eu envie de me mettre sur ce chemin et d'avancer sur ce chemin. Voilà, d'en faire l'expérience, en fait.
Et donc ça, pour vous, c'est une expérience de résurrection ?
Ben, c'est une expérience, en tout cas, de changement de vie, oui, de changement de vie, impulsé par quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Mais il y a un appel qui résonne quand même très fortement, voilà.
Après la résurrection, le Christ apparaît à ses proches d'une manière à la fois autre et palpable, on pourrait dire, puisqu'il dit à Thomas « touche-moi ». Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?
Ben, cela signifie que pour ceux qui sont les témoins finalement d'un changement profond ou d'une transformation intérieure profonde, évidemment cette transformation elle se voit et les proches peuvent être assez désarçonnés par ce qui se passe en fait, ne pas comprendre où va la personne, d'ailleurs elle ne le sait pas elle-même le plus souvent, et c'est peut-être cette démarche-là qu'il faut accompagner en fait, parce qu'elle est un peu surprenante pour les proches. D'ailleurs Marie-Madeleine non plus n'a pas reconnu Jésus, en tout cas pas comme elle l'imaginait. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'abandon, là encore, hein, de ses sécurités, de l'image qu'on a de l'autre, de ses propres projections vers lesquelles il faut avancer.
Vous, par exemple, découvrant la foi, est-ce que vos proches autour de vous ont été surpris ?
Oui, bien sûr. Les proches ont été assez surpris, n'ont pas toujours compris, ne comprennent pas toujours. Les amis aussi, l'entourage proche. Oui, c'est pas si facile en fait. C'est-à-dire que la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc soit ce sont des gens qui partagent cette foi-là et qui du coup accueillent très favorablement évidemment le changement, soit c'est des gens qui sont pas du tout aujourd'hui, qui sont athées ou qui sont d'une autre religion et qui disent mais qu'est-ce qui se passe. Voilà, je crois que c'est toujours une surprise en fait, même si ça se fait en douceur et de manière très progressive en fait.
À quoi nous rendre attentifs finalement pour percevoir cette présence du Christ ressuscité dans nos vies ?
Je crois que d'abord, il faut peut-être quitter un peu l'agitation ambiante que nous connaissons, d'autant plus que nous vivons finalement dans un contexte depuis la crise du Covid, hein, dans des crises finalement qui se succèdent les unes et les autres, et donc qui créent une incertitude par rapport à l'avenir, hein, qui créent des phénomènes d'inquiétude hein, par rapport à ce qui va se passer et qu'on ne connaît pas, vers la création d'un nouveau normal que finalement dont on ne maîtrise pas véritablement les contours. Et je pense qu'il faut savoir faire silence, se poser, parce que finalement, pour entendre et pour chercher quelque chose, il faut aussi pouvoir faire un petit peu le calme autour de soi et en soi.
J'en reviens à votre activité professionnelle. Est-ce que vous auriez des exemples un petit peu nous raconter comment vous êtes, on pourrait dire, comment le Christ ressuscité habite votre accompagnement et comment êtes-vous témoin vous-même de petites résurrections, peut-être ?
Ah ben on voit véritablement dans le domaine professionnel des gens faire des chemins que je vais qualifier de lumineux, même si. Donc la façon dont ça s'exprime dans l'accompagnement, c'est que moi je considère que la personne est un tout, c'est-à-dire que c'est un corps, c'est une intelligence, mais c'est aussi une âme en fait. Et les trois sont finalement on ne peut pas ne traiter qu'un des volets dans l'accompagnement et pas les autres. C'est souvent fait de manière non explicite dans un cadre professionnel. Mais si la personne va sur des questions de sens et des questions existentielles profondes, ce qui est souvent le cas dans le monde du travail et de plus en plus en ce moment, où il y a une recherche du sens qui est exacerbée depuis la crise du Covid notamment, eh bien, on peut tout à fait y répondre dans la transparence, en fait. Hein. Voilà. C'est pas toujours immédiat, mais en général, ça émerge au cours des échanges.
Vous n'avez pas une petite histoire comme ça à nous raconter pour les auditeurs, pour qu'ils concrétisent un petit peu comment on peut faire une traversée, finalement. Le Christ lui-même a fait une traversée de sa passion à la résurrection, on pourrait dire. Comment est-ce qu'on fait une traversée comme ça ?
Bah, je pense qu'il y a des belles histoires qui sont connues aujourd'hui et assez médiatisées. On pourrait parler par exemple de celle des cafés joyeux, voilà, dont vous avez entendu parler avec Yann et Ludwin Binkai qui ont répondu à un appel d'une personne en situation de handicap et qui ont été très loin puisqu'ils ont monté un premier café joyeux, un deuxième, un troisième, et que là aussi ça ne s'est pas fait sans difficulté et sans combat au jour le jour. Donc voilà typiquement un chemin d'abord, enfin finalement de il y a un moment, il y a un déclic qui se passe, il y a un avant, il y a un après, on décide, il y a un départ, il y a un élan, et puis il y a une mise en chemin.
Il y a un abandon de sécurité.
Et puis il y a un abandon de sécurité parce que, enfin, il faudrait poser la question à Yann Bucaï, mais je pense pas que quand il a monté le premier café joyeux, tout était garanti en fait.
Oui, et c'est pour aussi une forme de, finalement, la résurrection, c'est un peu, c'est une petite révolution, on pourrait dire. Les cafés joyeux, ça inaugure quand même un nouveau mode de société.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la réponse. Enfin, en tout cas, c'est la réponse. C'est une écoute, je pense, des vibrations que l'on entend autour de nous, qu'on est susceptible d'entendre autour de nous. Donc, ça passe par une écoute, une intériorisation finalement de cette écoute, et puis la réponse libre à ce que l'on perçoit être un appel en fait. Qui va être très différent suivant les personnes, bien entendu, et suivant leur mode de vie et l'endroit où ils travaillent, enfin, la façon dont ils travaillent et là où ils sont aujourd'hui.
Je reviens à ce terme de résurrection qui est, c'est se lever en même temps.
C'est se lever, c'est revenir à une vie en plénitude, c'est revenir à une vie en plénitude en laissant une certaine, enfin, c'est une mort à soi-même pour accéder à une vie plus en plénitude, en fait. C'est une petite mort, hein, mais
oui, parce qu'il n'y a pas toujours des changements extraordinaires dans nos vies.
Oui, tout à fait.
Ça peut être simplement se remettre en route après un moment de découragement, par exemple, on pourrait dire.
Oui, mais il faut que ça participe d'un redémarrage. En fait, il y a vraiment il y a un avant. Je crois qu'il y a une césure. Il y a vraiment un moment de bascule avec un avant et un après et un changement qui est quand même assez profond
donc,
ce moment.
Oui. Bien, merci Catherine de nous avoir invité comme ça à mieux comprendre finalement comment la résurrection s'incarne dans nos vies aussi. Un grand merci, chers auditeurs, d'être fidèles à 1000 questions à la fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1000 questions à la fois, en collaboration avec le site croirelacroix.com.
Bonjour Monseigneur Ulrich.
Bonjour Marie-Ange.
Allez, décollage pour Notre-Dame de Paris ce week-end, Monseigneur Ulrich, pourquoi pas, étant donné que l'ouverture approche à grands pas, il y a énormément de questions, quelques petites polémiques ici et là, notamment concernant les vitraux. Évidemment, on y tient notre belle Notre-Dame de Paris. On peut comprendre évidemment nos fidèles auditeurs parisiens et franciliens. Monseigneur Ulrich, est-ce qu'il y a d'abord de quoi s'inquiéter ou pas en ce qui concerne
Alors,
tout ça?
Alors, premièrement, non. Premièrement, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les délais sont parfaitement tenus. Je suis allé ces jours-ci, comme j'y vais très régulièrement, voir où on en était. C'était le jour de l'arrivée du mobilier
liturgique.
Donc, je suis arrivé au moment même où on posait l'autel et on le fixait au sol. Donc, j'ai assisté à cette opération, qui était une opération de précision, voilà. Parce que tout était parfaitement calculé, posé et fiché par deux axes qui lui permettent à la fois de tenir droit et de ne pas être bousculé, et de toute façon il n'y risque pas beaucoup, la gravité suffit à le poser soigneusement sur le sol, mais c'est par sécurité, et il ne risque pas de pivoter, puisqu'il y a deux axes qui sont fichés en terre, et qui entre dans l'autel de sorte que ça ne va pas bouger. Et c'était au millimètre près et équilibré du point de vue de la surface. Enfin, tout ça est travaillé avec des niveaux qui permettent d'assurer que c'est parfaitement horizontal.
On sent que ça vous a passionné cette affaire. La première fois peut-être que vous aviez assisté à ça. Comment a été fait le choix au fond de ce dit mobilier liturgique? J'imagine que ça a été quand même une sacrée affaire, ça aussi, de sélectionner
voilà,
la modernité, évidemment,
versus... Il y avait eu un concours d'une consultation d'artistes. Il y avait eu, je ne sais plus combien, environ 70 candidats, puis 5 retenus et un lauréat, qui donc est Guillaume Bardet, et qui a exécuté en bronze l'autel, l'ambon, la cathèdre, le tabernacle et le baptistère. Donc tout ça a été en train d'être monté hier et aujourd'hui. Et je pense que...
Est-ce que vous n'avez pas été déçu
au milieu de la scène. Non, pas déçu du tout. Je suis heureux d'avoir vu ce que j'ai vu il y a 2-3 jours. Et c'est formidable, je pense que c'est très bien.
Voilà. Ça doit faire un drôle d'effet, effectivement, de voir tout à coup ce nouvel habillage, si je puis dire, de Notre-Dame de Paris. Oui, on peut comprendre en tout cas l'effet de surprise, j'imagine, quand même.
Oui. J'ai été aussi très, très, très touché par les éclairages qui, ça y est, qui arrivent, qui sont peut-être pas tout à fait terminés, mais qui donnent sur cette pierre blanche, blonde, un très, très bel effet. Il y a des éclairages, bien sûr, qui donnent sur la nef et qui permettent d'éclairer les fidèles qui seront là et puis les visiteurs qui circuleront. Et puis, il y a des éclairages, évidemment, indirects qui soulignent les voûtes, tout cela. Et puis, les grands lustres qui existaient naguère ont été complètement restaurés, nettoyés. Ils sont brillants et c'est très beau à voir. Ils ont été bien, bien replacés. Quelqu'un qui connaissait bien la cathédrale avant m'a dit, mais j'avoue que je ne les avais jamais remarqués. Il y avait de l'éclairage, mais je n'avais jamais remarqué ces lustres qui sont beaux. Voilà.
À quoi faudra-t-il s'attendre, au fond, à début décembre, à la réouverture de Notre-Dame de Paris? À quoi faudra-t-il s'attendre et à quoi ne faudra-t-il pas s'attendre, également?
Alors, il faudra s'attendre à être surpris.
J'imagine.
Pardon de cette formule. Mais parce que je pense, moi, personnellement, je suis entré plusieurs fois à Notre-Dame de Paris avant son incendie. Et avant d'être l'archevêque, je ne peux pas dire que j'avais un souvenir suffisant, parce que j'ai participé à Notre-Dame de Paris, je suis entré dans Notre-Dame de Paris comme un visiteur la plupart du temps, et 3 fois comme officiant, 3-4 fois comme officiant, concélébrant la messe dans cette cathédrale, ou bien célébrant, cela m'était arrivé, des baptêmes. Voilà. Donc je l'ai vu comme un lieu pour moi de célébration. Je n'y étais pas spécialement attardé, voilà, sur les détails, sur sa beauté, sur voilà. Mais le souvenir que j'en avais, c'est que c'était plutôt noir, voilà. Et là, c'est
on y a gagné plus de lumière en quelque sorte.
Ah ben, il y a beaucoup de lumière. Certainement une impression de plus grande largeur et longueur. Alors peut-être que c'est lié pour l'instant au fait que tout le mobilier n'est pas là, que ça n'est pas réhabité, etc. Mais manifestement, elle donne l'impression d'être plus longue et plus large qu'on en avait l'impression avant, je pense. Voilà. Mais c'était du fait de la noirceur des lieux. Voilà. Et puis, on va retrouver les peintures de Viollet-le-Duc dans les chapelles du déambulatoire. Et là encore, ceux qui connaissaient bien Notre-Dame ont, j'allais dire, une absence de souvenir sur ces peintures, parce qu'elles étaient aussi recouvertes de crasse des années, quoi. Et là, on va voir des peintures qui sont des peintures du 19e siècle, on aime ou on n'aime pas, ce sont des peintures du 19e siècle voulant reproduire des effets médiévaux, à la façon dont on comprenait le Moyen-Âge au XIXe siècle. Donc, on verra que c'est bien, que ça dit des choses, que c'est dans un certain style, mais en tout cas, ça a retrouvé une belle fraîcheur.
Voilà. Est-ce que c'est toujours le silence qui est un petit peu le fil rouge? C'est ce qu'avait dit à l'époque, je crois, le designer. Enfin bref, ça a été dit, je ne sais plus qui avait dit ça, qu'il ressortait au fond de toute cette nouvelle ambiance liée à ce nouveau mobilier liturgique, etc., la lumière, etc. Le silence, est-ce que vous êtes à partager ce point de vue, Mgr Ulrich, pour terminer?
Alors, évidemment, c'est difficile d'avoir un point de vue, parce que toutes les fois où je suis entré dans la cathédrale depuis 2022, c'était plutôt bruyant du fait du travail qui s'y déroulait. Comme il y avait toujours plusieurs corps de métier qui travaillaient ensemble, certains étaient plus bruyants que d'autres, il y avait des bruits métalliques, il y avait, etc. Donc, c'était une atmosphère plutôt bruyante. Bien sûr, avec les visiteurs nombreux, on pourra s'attendre à une sorte de, un peu de brouhaha, mais on va faire en sorte que le caractère recueilli possible dans un certain nombre de lieux de cette église soit maintenu le mieux possible, parce que il y aura des visiteurs, c'est une chose, mais il y aura aussi des gens qui viennent là pour prier, et j'en suis tout à fait sûr. La proximité de la Sainte Couronne d'épines qui apportera cette densité de silence, je l'espère, sera bien maintenue.
Alors, faudra-t-il faire payer l'entrée Notre-Dame ? Ça sera l'objet d'une autre émission, Monseigneur Ulrich.
Ah ben
malheureusement,
non,
l'émission touche
payé.
À sa fin.
On ne l'a pas.
Ah,
on
bah d'accord, bah, on a la réponse.
On n'entre pas dans nos églises en France, sauf dans des parties muséales.
Comme en Espagne.
Comme par exemple. Oui, oui. Là, c'est une visite particulière qui est payante.
Eh bien, merci en tout cas pour ces précisions.
L'église dans laquelle on prie, elle n'est pas d'entrée payante.
La maison de Jésus. Merci infiniment,
voilà.
Monseigneur
merci.
Ulrich, et on vous souhaite évidemment un bon week-end.
Merci beaucoup.
RCF, la prière du matin.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Ce que l'on regarde comme chef des nations. Voici Jésus qui mise une distance vis-à-vis du pouvoir. Il est fragile ce pouvoir si l'on y pense. Il suffit de ne plus y adhérer, de ne plus reconnaître nos dirigeants pour tels, pour que le pouvoir s'effondre. Des colosses aux pieds d'argile. Est-ce pour cela que, dans certains pays, comme à l'époque de Jésus, on fait sentir ce pouvoir ? On pèse sur la population, on la menace, on déplie une présence totalitaire, totalisante ? Le pouvoir est fragile. Il ne se fonde parfois que sur la fascination. Jésus rebat les cartes. Le pouvoir doit devenir autorité, du latin auctoritas, capacité de faire grandir. Et pour cela, il faut se mettre au service. Un peu comme le jardinier qui sarcle, enlève les mauvaises herbes, taille, pour que les plantes poussent. Le chrétien reflète la sollicitude de Dieu le Père et de Jésus en se mettant au service. Jésus n'exige rien, mais il transforme. Transformer l'élan que nous avons tous à vouloir être le meilleur, un élan cultivé dans un système scolaire de plus en plus compétitif, dans un marché de travail de plus en plus exigeant, un élan qui peut détourner du bien commun. Un élan transformé en toute autre chose, en une force qui, loin de nous couper des autres, rétablit le lien, pour que la loi de la jungle laisse place à l'entraide et la coopération. Car, comme le dit Victor Hugo dans ses proses philosophiques, rien n'est solitaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil est solidaire avec l'étoile est solidaire avec la nébuleuse, groupe stellaire, est solidaire avec l'infini. Ôtez un terme de cette formule, le polynôme se désorganise, l'équation chancelle. Donc, solidarité de tout avec tout. La solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Saint du jour, Isabelle Delaunay.
Bonjour, en ce 20 octobre, nous fêtons les Adelines, Aline et Lynn. Le prénom médiéval Adeline vient du germain et signifie « douce et noble ». La bienheureuse Adeline ou Aline est une abbesse cistercienne du XIIe siècle, à Mortain, dans la Manche, non loin de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. L'abbaye de Mortain fut appelée l'abbaye blanche, en référence à l'abbaye blanc des Moniales. Descendante de Guillaume le Conquérant, sainte Adeline avait un frère aîné Vital, qui fonda, quant à lui, l'abbaye de Savigny près d'Avranches, et qui fut aussi canonisé. L'Église catholique fête aussi aujourd'hui la Vierge Marie sous le vocable de « Mater Admirabilis ». Ce nom de Mère Admirable fut donné à une fresque de la Trinité des Monts à Rome, qui représente Marie à 15 ans, œuvre de Pauline Perdreau, devenue plus tard religieuse chez les Dames du Sacré-Cœur. La jeune Marie, vêtue d'une robe rouge, enveloppée d'un manteau blanc, tisse le voile du sanctuaire. Elle est au temple. À sa droite, un lys s'incline vers elle. Elle vient de laisser sa quenouille et sa Bible et semble toute recueillie et habitée. De nombreux pèlerins viennent aujourd'hui la prier et ils prient ainsi. Mère admirable, lys de la vallée, prie pour nous. Mère admirable, trésor de calme et de sérénité, prie pour nous en ce jour de ta fête.
Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent chaque semaine un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en lumière le lien entre des faits passés et leur incidence dans notre quotidien. Les Racines du Présent, c'est ce dimanche à 14h30.
Moi qui suis déficient visuel, j'aime beaucoup aussi les temps de prière que vous passez le matin. Le temps de prière, on ne peut pas se les faire traduire, on ne peut pas se les faire lire parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un de disponible. Vous êtes un énorme support pour nous et ça, je tiens à vous remercier, vous et toute l'équipe de RCF. Voilà.
Si comme Guillaume, vous souhaitez que RCF continue d'être au service de tous ses auditeurs, soutenez votre radio. Envoyez un chèque à RCF Solidarité, 69 321 Lyon, CEDEX 05.
Connaissez-vous l'histoire de votre saint patron? Dans le Saint du jour, Isabelle Delaunay vous raconte la vie mouvementée ou plus religieuse des grandes figures de la sainteté. Le Saint du jour, c'est tous les matins sur RCF et quand vous le voulez sur rcf.fr.